Le reflet brisé. Nina Gorlier. Lue par Marie Barbaria. Les monstres sont réels, et les fantômes aussi. Ils vivent à l'intérieur de nous, et parfois, ils gagnent. Stephen King. Acte 1. Chapitre 1. Lorsque Kristen quitta le couvent ce jour-là, une nouvelle vie l'attendait. Il restait à savoir si c'était pour le meilleur ou pour le pire. « Je vais mourir, » réalisa-t-elle. « Dès qu'ils le sauront, ils me tueront. » Cette perspective ne l'épouvantait guère. À vrai dire, elle la perturbait à peine. Enfermée dans sa chambre sans chaleur ni couleur, Christiane avait eu le temps de la digérer encore et encore, jusqu'à s'en détacher complètement. Il était trop tard pour regretter. Elle n'avait plus qu'à attendre le début de la partie. Les adieux des jeunes novices, le baiser pudique de la mère supérieure, les lèvres pincées, la dernière vision du cloître où elle avait grandi, de la cour intérieure et ses potagers jaunis par l'automne naissant. Devant cette scène, Christiane avait tenté de pleurer sans y parvenir. Grâce à son visage dissimulé sous son voile en dentelle, les demoiselles ne s'étaient aperçues de rien. Maintenant, la jeune femme se laissait porter à l'intérieur du carrosse, secouée par la route boueuse. Sur sa gauche, elle imaginait un brin de mer se jeter contre les falaises. Son parfum iodé lui parvenait à travers les vitres, de même que le bruit des vagues enragées. Le tissu devant ses yeux obstruait sa vision, alors elle ne pouvait que deviner la beauté d'un tel spectacle. Sa destination l'enfonçait davantage vers l'est, ou plus profond des terres, et elle ignorait si elle verrait de nouveau l'océan. Le véhicule la chahuta pendant toute une journée. Face à elle, une femme d'une trentaine d'années, brune et silencieuse, la scrutait à travers le voile qui les séparait. Parée de perles trop serrées, elle ne cessait de remonter sa coiffe de velours grenat. Cette richesse indiquait son appartenance à la cour, bien que la princesse Christine n'y ait passé trop peu de temps pour se souvenir de son nom. Elle partageait le même mutisme. C'était mieux ainsi. Toute cette affaire n'était qu'un arrangement silencieux. Une douleur fissura son visage qui se contracta brusquement. Elle fut tranchée à vif. Même des années après, la sensation demeurait foudroyante. Elle dormait sous sa peau, ses épines enfoncées dans ses chairs prêtes à la surprendre lorsqu'elle baissait sa garde. Christine s'était assoupie sans le remarquer. Elle sursauta sous l'agression devant le regard interrogateur de sa geôlière. La dentelle de son voile, comme une caresse tiède, se collait à ses tourments. Elle la démangeait et lui renvoyait son propre souffle, chaud et saccadé, empli d'incertitude. Suffisamment transparente, cette barrière entre elle et le monde laissait discerner l'imperfection de son profil, sans en détailler la laideur. Assez pour s'en faire une idée atténuée. Dehors, la nuit était tombée. Leur convoi s'arrêta à un relais de poste. Après avoir revêtu leur long capuchon, Christine et sa chaperonne gagnèrent l'auberge où elles se restaurèrent d'une soupe de hareng et d'une assiette d'omelette. Nul ne fit attention à elle. Il fallait dire qu'elle voyageait discrètement, sans la moindre mal. La princesse n'avait emporté aucun bien personnel comme la tradition l'exigeait. La future mariée devait gagner la demeure de son époux sans la moindre attache à son ancienne vie. Juste après le souper, elles reprirent la route. Pendant la nuit, un orage éclata. Christine dormit très peu, gênée par l'averse, la nuque endolorie par sa position inconfortable. Sa douleur au visage était ravivée par la fatigue. Elle distingua l'aube se lever d'un regard humide, ignorant la distance parcourue durant la tempête. Lorsque le carrosse s'arrêta enfin à la croisée de deux chemins, un autre équipage les rejoignit. Christine ne bougea pas, le cou tendu. Tout se fit le plus rapidement possible, sans panache, dans ce matin pluvieux. Le cœur lourd, elle écouta les hommages donnés de l'autre côté de la portière. La nouvelle venue s'approcha enfin, et la femme aux perles inclina la tête avec respect. « Madame ?» Christine retint son souffle. « Sophie von Schaffen, princesse de Brückenberg ?» souleva sa lourde robe noire, s'installa face à sa fille et lui dit simplement Son Altesse vous adresse ses félicitations et tous ses vœux de bonheur. » Kristen hocha le menton. Son cousin Maximilien, le prince régnant, n'avait pas fait le déplacement. Il lui devait pourtant reconnaissance car un tel arrangement avec la maison Valbec signifiait la paix pour la petite principauté. Sa mère tapa un coup contre le plafond et l'attelage reprit sa route. « Nous y serons pour la mi-journée, » annonça-t-elle de sa voix sèche. « Ma fille, redressez vos épaules !» Le ton fut brusque. La femme au collier s'exécuta également. Engoncée dans sa collerette, la princesse douairière se mit à manipuler fébrilement son chapelet. Elle refusait de fixer la future mariée. Celle-ci savait que ce n'était pas des remords, mais plutôt une tâche difficile à endurer. Sophie von Schaffen était bien trop fière pour l'avouer. À travers le tissu, les yeux noisettes de Kristen contemplaient les plaines humides. La dentelle dessinait des ombres par-dessus les pâturages qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, parsemés de troupeaux. Leurs crottins mêlés à la boue arrachaient un pincement de nez à la chaperonne. Dans le ciel, les nuages s'enfuyaient pour laisser paraître un soleil timide. Kristen pouvait entendre le vent battre le carrosse et tout cela l'émerveillait comme si elle le découvrait pour la première fois. Son propre pays lui était étranger, alors qu'elle le quittait pour toujours. Une fois devant Wilhelm, ne découvrez pas votre visage avant qu'il n'en fasse la demande, renifla la vieille femme. Elle passa sa main baguée dans ses cheveux rêches pour réajuster son artifice. Le blanc de ses ruses dont elle s'enduisait le visage accentuait ses traits burinés plus qu'il ne les estompait. Cette tradition est une bonne chose pour notre affaire, continua-t-elle. Face à la volonté du Seigneur, le cœur reste aveugle jusqu'à l'autel. Si le roi avait vu votre portrait, il aurait pu vous refuser. Là était tout le danger. Un déshonneur pour la famille Schaffen et une alliance en péril. Malgré cela, Kristen n'avait pas peur. Une nouvelle chance s'offrait à elle. Les cartes étaient dans ses mains, il ne restait plus qu'à jouer le jeu. Devant le manque de réaction de la jeune princesse, sa mère la rappela avec froideur. Êtes-vous à votre aise ? Regardez-moi quand je vous parle. La princesse semble souffrante, s'enquit pour la première fois leur compagne. La princesse est tout le temps souffrante, c'est dans sa nature, vous vous en souvenez ? S'agaça la veuve davantage à l'attention de sa fille. Un ange passa. La tension entre ces trois femmes était si dense que Kristen pouvait la sentir oppresser ses tempes. À l'étroit, elle désirait passer sa tête par la fenêtre et hurler de toutes ses forces, quitte à basculer pour tomber dans la fange. Si seulement l'une d'elles lui avait soufflé le moindre mot rassurant, le moindre sourire, aussi infime soit-il. Mais il n'en fut rien. Dehors, la brume était retombée. L'équipage atteignit sa destination lorsqu'il parvint au pont de Lening, frontière entre le Brückenberg et le royaume voisin, Steinburg. La nouvelle demeure de Kristen. C'était une immense construction de pierre, dressée à plus de 50 mètres au-dessus du fleuve. Elle était si longue que, plongée dans le brouillard, on ne pouvait en voir le bout. Là-bas, Steinburg disparaissait dans l'incertitude. Toutes trois descendirent du carrosse. Quelques gardes princiers les attendaient déjà, grelottant sous leur armure rouge. La cérémonie d'adieu fut brève. « Vous devez avancer seul, » prévint la femme au collier. « Nous n'avons pas le droit de vous suivre. » Sous sa manche, Kristen se pinça le poignet. De l'autre côté du tissu, le monde était complètement flou. « Ma fille ?» La princesse Sophie se força à lui offrir un sourire. Elle posa une main sur son bras, réajusta son voile de l'autre. Kristen frissonna lorsqu'elle l'embrassa avec retenue. « N'oubliez pas votre promesse, » lui glissa-t-elle en guise d'adieu, ses doigts enfoncés dans sa chair. « Vous êtes l'espoir de cette famille. » Un simple mot portait tant de responsabilités sur des épaules encore chétives. Avec cette couronne, sa mère la jetait à la merci d'un ours affamé. Kristen s'avança dans le brouillard. Très vite, la nappe évanescente engloutit ce qui appartenait maintenant au passé. Il ne restait plus qu'elle sur ce pont interminable et le vide sous ses pieds. Cette frontière de pierre constituait la différence entre les deux pays. Depuis des années, une profonde rivalité entretenait méfiance et préjugés envers l'autre. Il était temps de garantir la paix, car la principauté de Brückenberg ne pouvait pas se permettre une nouvelle guerre contre son voisin. Le royaume de Steinburg, lui, n'avait aucun accès à la mer. Un tel mariage lui ouvrait les portes du commerce maritime. Une silhouette mauve se dessina dans la grisaille. Un individu se tenait là, seul au milieu du pont, les mains croisées dans le dos. Christine dut s'arrêter assez près pour remarquer qu'il la scrutait sans pudeur. C'était un homme entre deux âges, au visage sec et allongé. Une moustache effilée déguisait son teint cireux. Bienvenue à Steinburg, Votre Altesse. Votre voyage s'est bien passé ? Christine inclina simplement la tête. Elle ne savait pas comment interpréter cette voix chantante. « Je suis Otto Fersch, fidèle conseiller de Sa Majesté. Je suis ici en son nom pour vous accompagner jusqu'à votre nouvelle demeure. » Elle accepta le bras qu'il lui proposait et se dirigea vers la grande tente montée sur le chemin de pierre. La présence des gardes, reconnaissables à leurs armoiries, d'azur à l'ours d'or, symbole de Wilhelm II, lui indiqua qu'il se trouvait à la frontière. De l'autre côté du pont se dressait une forteresse, jumelle à celle de Brückenberg. « Je vous laisse accepter vos nouveaux atours, » lui dit l'homme en mauve. Plusieurs femmes l'attendaient à l'intérieur du chapiteau. Elles la déshabillèrent et l'aidèrent à plonger dans une bassine en fonte où elles la savonnèrent, la frottèrent jusque sous les ongles, puis démêlèrent ses longs cheveux blonds. La peau maltraitée de Christine s'enlaidit de rougeur sur l'ensemble de son corps. Elle garda le visage baissé, les yeux fermés sans faire mal. L'absence de son voile après l'avoir porté si longtemps était une torture glacée. La gêne la gagnait davantage pour ses joues découvertes que pour ses seins dénudés. Personne n'osa la moindre remarque. Après sa sortie du bain, elles brûlèrent ses anciens habits pour lui proposer une robe de velours bleu aux larges jupons. Ainsi, sa toilette à l'insigne de Brückenberg, la couleuvre rouge, se consuma dans les flammes. Une fois habillée de lourdes soieries, une adolescente un peu gauche réajusta sa taille. Les autres dégagèrent son front, tressèrent sa chevelure et l'enroulèrent derrière son crâne. Tout était prêt, à l'exception d'un détail. « J'exige un voile », insista Christine de sa voix grave. « Telle est la tradition. » Les servantes n'étaient pas dupes, mais se plièrent à sa volonté. On lui trouva une voilette de fortune pour dissimuler son visage. Une fois en dessous, la princesse retrouva son souffle.